Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 en direct de la montagne des RMC Sport Games, en direct de l'Alpe d'Huez pour les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, en direct à la radio évidemment, mais également en direct sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Si vous voulez admirer les grandes gueules du sport, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre maintenant. Vous verrez derrière nous les belles montagnes des Alpes. Voilà, un petit peu de neige tout de même, même si nous attendons surtout la neige cet après-midi et demain. Toujours avec Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Denis Charvet dans quelques instants, le bras de fer des GG. Le 15 de France manque-t-il de respect à la Nouvelle-Zélande? La peur, l'appréhension à 10h30. Alexis Pinturo a préféré renoncer à la première descente de la saison hier. Son grand retour à la compétition aura lieu tout de même aujourd'hui, un an après sa grave blessure. Peut-il vraiment revenir au top? Ce sera notre question. Et puis 10h45, vous le savez, le samedi avec Christophe Cessieux, c'est la crise de la soixantaine. Christophe est très remonté contre Alpine, la gestion du KO Kon.
Ouais, c'est surtout Flavio contre Briator, Flavio Briator que je suis
qui tire les ficelles. Ah, t'as beaucoup de choses à nous dire, ce sera à 10h45.
Il est jaloux.
Qu'est-ce qu'il t'a fait, Flavio?
C'est Naomi Campbell. Il lui a piqué Naomi Campbell, Flavio. Il y a un petit air de Flavio Briator. Le Flavio Briator du père. C'est le Flavio du père, Christophe.
Et puis un cadeau à vous offrir, chers auditeurs, pour vous remercier de votre fidélité, votre trousse pure essentielle avec beaucoup de produits à l'intérieur pour vous décontracter, apaiser vos zones sensibles, apaiser vos raideurs. N'hésitez pas, on l'a déjà offert évidemment à Christophe Cessieux et à Denis Charvet. Votre trousse
la gamme pure essentielle, la gamme complète.
Vous avez juste à composer surtout le 32-16 et on vous offre ce merveilleux cadeau. Allez, pour débuter cette nouvelle heure, un proverbe oriental qui dit le respect et le lien de l'amitié.
RMC, le bras de fer GG.
La passe au pied.
Il va y avoir essai. Essai de Black.
Oh, pardon. Vous n'avez pas vu.
Il va aller.
Oh non.
Essai de Black.
C'est le Néo-Zélandais.
Oui, non, c'est très surfait d'ailleurs.
Le coup de pied, le rebond. Et lui, essai.
Ouais, c'est ça, l'équipe de France. Essai de la gagne.
Oui. Enfin, non, je sais pas, on s'en fout.
Ça va peut-être être l'essai.
Essai
néo-zélandais.
Il y a des gens qui sont pas très intéressants dans ce camping.
Bonne combinaison avec Béafou à l'intérieur. Ça va l'essai, ça. Ça va l'essai.
Ouais.
Je parie qu'il n'y a personne au quartier général qui soit au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, il s'en fiche.
C'est terminé. La France t'emporte 30-29.
39,
bel espoir des Français. Ouais. 15e victoire dans l'histoire des Bleus face aux All Blacks.
Ce n'est pas très palpitant.
Il y a quelques semaines, cette victoire magnifique du 15 de France. Alors, elle a dit non. Non au mythe, non à la Nouvelle-Zélande. La Fédération française du rugby a fait savoir cette semaine à la Fédé néo-zélandaise qu'elle ne souhaitait pas disputer un des trois tests de juillet. Aux États-Unis, une initiative des Blacks pour des raisons économiques, par crainte d'un bid commercial avec la venue d'une équipe de France bis. En Nouvelle-Zélande, en effet, le staff des Bleus, vous le savez, a annoncé depuis des semaines qu'il enverrait les remplaçants pour cette tournée. Les joueurs premium, les finalistes du top 14 de la Coupe d'Europe seront dispensés de voyage. Le 15 de France manque-t-il de respect aux Blacks dans la team dans le coin gauche? La team oui, représentée, ils sont nombreux, hein, Denis Charvet, Christophe Cessieux et Julien Beneteau. Dans le coin droit, la team non, elle est seule, Sarah Pitkowski. Mais elle a les
elle
auditeurs.
A deux tout petits arguments, je vois sur son.
Ouais, ouais.
Alors, tout
elle,
petit.
Elle est allée travailler.
Parce que j'écris tout petit.
Non, mais elle est allée travailler. Mais...
Elle a les auditeurs avec elle. On vous a évidemment posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous êtes 69% à répondre non. Le 15 de France ne manque pas de respect à la Nouvelle-Zélande. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport suiveur des Bleus, c'est Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut JC, bonjour à toutes et à tous.
Salut Pierrot.
Alors Pierre, quelles sont les raisons du non de la Fédération française de rugby?
Principalement des raisons sportives. Fabien Galthié était contre et Florian Grill l'a expliqué à l'équipe. Il y aurait eu en fait un double décalage horaire. D'abord en Nouvelle-Zélande, puis aux États-Unis. C'est pas optimal en termes de récupération. On sait que les internationaux français jouent beaucoup plus que leurs adversaires de l'hémisphère sud. Et en plus, il y aurait un changement de saison entre l'hiver néo-zélandais et l'été américain. Ça faisait trop pour la FFR, malgré le petit bonus financier qu'elle en aurait tiré. Parce qu'on le rappelle, cette volonté des néo-zélandais de délocaliser est motivée purement par des raisons économiques. Ils l'ont déjà déjà fait dans le passé face à l'Irlande et face aux Fidji. La fédération ne va pas bien financièrement et la venue des Français devait permettre de regarnir les caisses. Mais tu l'as dit, les Bleus n'arriveront pas avec toute leur force. Ça, ça fait partie de la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Les finalistes de Top 14 ne participent pas à la tournée d'été. D'office, les Toulousains d'Antoine Dupont sont quasiment hors du jeu parce que Fabien Galthié étend souvent cette règle à la plupart de ses joueurs premium. Cette tournée est la seule opportunité de repos. Ça va être dur d'imaginer Ficou, Aldrit faire le voyage, même s'ils sont éliminés avant la finale. Avec le nombre de matchs dans l'année, impossible d'envoyer toutes ses forces sur les trois périodes internationales. La tournée de novembre, le tournoi destination, puis la tournée estivale. Les Néo-Zélandais pensaient peut-être que les Bleus feraient une exception pour cette tournée, mais non, Antoine Dupont n'a toujours pas foulé la pelouse de l'Eden Park à Auckland et pourrait ne jamais y jouer.
Merci beaucoup Pierre Thévenet pour ces précisions. Le 15 de France manque-t-il de respect à la Nouvelle-Zélande? On vous attend le 32-16, le hashtag RMC Lève, l'application RMC Direct Studio. 69% non, il n'y a pas de manque de respect. Donc Sarah, pour l'instant tu es tranquille, tu vas pouvoir écouter les arguments de tes adversaires. Je sais que tu es remonté sur cette question, Denis Charvet, oui. Pourquoi oui?
Oui, mais en même temps je comprends le... Si tu veux la démarche.
Non, mais c'est
vraiment retourné
là,
de veste.
Il tient son parking. Offert par la Fédération française de rugby pour le tournoi de destination au Stade de France.
Je n'ai pas dit un mot, je suis agressé déjà. Donc, s'il te plaît, reprends un peu le fil de ton émission.
Franchement, je ne suis pas loin d'être d'accord avec eux.
C'est la conséquence qui me fait dire que ça manque de respect, parce que tu bafoues l'histoire, en fait, de notre sport. Moi, j'ai joué en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des tournois en Nouvelle-Zélande. C'est dans la culture, c'est dans l'ADN, c'est dans l'identité. Donc, c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est un manque profond de respect d'envoyer une équipe de développement. Même si derrière, tous les arguments, on les connaît, parce que le calendrier, parce que le top 14, la Ligue, n'envoie pas les joueurs de la finale. Mais quand même, à ce moment-là, il ne faut pas la faire, cette tournée. La vérité, c'est qu'il ne faut pas la faire. Mais de l'autre côté, il faut du pognon parce que la Fédération néerlandaise n'en a pas assez. Donc, elles servent à remplir les caisses des Blacks. Mais il ne faut pas les faire. C'est bafouer l'histoire, c'est bafouer les grandes...
Bafouer l'histoire, c'est-à-dire que tu envoies tes joueurs parce qu'il faut remplir les caisses de la Fédération néerlandaise.
Non, c'est l'inverse. Non, parce que les matchs entre la France et la Nouvelle-Zélande, non, ça fait partie de
l'histoire
essentielle du rugby mondial.
Mais donc, vous êtes toujours dans le « c'était mieux avant ».
Non, pas du tout. Mais non, excuse-moi, tu te souviens des grandes victoires, la victoire de 79 de Jean-Pierre Rive, de la victoire de Philippe Saint-André en 94. C'est ça, le sport.
Oui, mais il a évolué, le sport, Denis. Ton sport a évolué.
Mais on s'en fout qu'il évolue.
Eh bah si.
Tu dois.
Bah si, il a évolué.
Les événements, c'est un grand match avec les grandes équipes.
Il évolue, mais quand les Néo-Zélandais viennent, eux,
avec la grande équipe,
ils font 7,5 millions de téléspectateurs. Ils remplissent le Stade de France comme nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui remplit 80 000 aujourd'hui au Stade de France. Et ça, tu crois que ça fait partie du passé?
Non,
ça fait partie de l'ADN du rugby.
Donc, vous savez quoi?
Tu leur manques de respect.
Il faut se plaindre à la Ligue et à la Fédération.
Oui,
c'est juste un règlement. En fait, dans ces cas-là.
Moi, si j'étais néo-zélandais, la prochaine fois, j'enverrai les Baby Blacks au Stade de France. Comme ça, il y aurait 30 000 spectateurs.
C'est ce qui va se passer.
Et la Fédération française de rugby se retrouverait dans la même situation.
C'est ce qui va se passer.
La Fédération néo-zélandaise.
C'est ce qui risque.
On leur manque de respect, on leur chie dans les bottes.
On leur manque pas de respect, c'est comme si, Sarah,
je finis juste. C'est comme si le Brésil, en football, d'envoyer l'équipe olympique ou les espoirs jouer au Maracanã contre le Brésil. Même chose. Là, ils vont aller jouer à Auckland, qui est la.
Il va pas parler à ta fédération et à ta ligue qui sont incapables de se mettre d'accord.
Mais
c'est la conséquence. C'est ce dont tu parles. La ligue a besoin d'un top 14 avec autant d'équipes, avec un championnat qui se finit le 28 juin. Et puis, il faut aussi caler la Coupe d'Europe où on est en train de rajouter des clubs. Et puis, il faut faire le tournoi des destination. Enfin, il y a un moment,
Les Anglais y arrivent. Ils ont deux équipes de moins, d'accord, mais ils y arrivent. Quand ils partent en demi-finale du Sud au mois de juillet, ils envoient leur grosse équipe.
Mais deux équipes de moins, tu gagnes au moins trois semaines. Ben. Là, ça finit le 28 juin. Comment tu fais pour envoyer des mecs le 5 juillet dans l'hémisphère sud? Il y a un truc, il y a un règlement.
Alors, pour revenir, pour revenir sur la question du débat, je suis d'accord avec Sarah sur le fait que aujourd'hui, vu comme c'est fait,
on peut pas faire autrement.
Ces cas-là, la Fédération française de rugby, elle dit rien à la Nouvelle-Zélande.
Quoi, elle dit rien?
La Nouvelle-Zélande, ils veulent jouer un match à Seattle, au Groenland, au Japon. Ils disent oui.
Tu vas en rampant.
Ils doivent dire oui. À partir du moment où leur système fait qu'ils peuvent pas envoyer leur meilleure équipe, ils ont rien à dire à la Fédération néo-zélandaise.
Ils n'ont pas imposé leurs conditions.
Non.
Mais non, je comprends.
Mais c'est pas une condition, puisque si. De facto, Sarah, on demande une dérogation, c'est-à-dire qu'une tournée,
obligé, oui,
une tournée, tu vas jouer dans le pays qui t'accueille.
Elle a raison, Sarah, t'es obligé d'accepter la.
Eh bien, si la Nouvelle-Zélande leur propose, leur demande fortement aux Français.
Mais c'est ce qu'ils ont fait.
Eh oui, mais les Français, ils ont refusé.
Ils ont refusé.
Mais là où ils manquent de respect à la Nouvelle-Zélande.
Parce que pour Fabien Galthié, double décalage horaire, ça arrive de fatiguer.
En tant que sélectionneur, si je me mets sur le point sportif, je comprends Galthié, les histoires de décalage horaire, etc. Mais à partir de, pour moi, c'est là où il manque de respect. C'est pas en envoyant pas l'équipe première.
Mais t'aurais pu trouver un compromis, c'est certain. C'est évident.
Parce qu'ils n'en voient pas ça. La conséquence, c'est que les Néo-Zélandais demandent aux Français, OK, dans ces cas-là, on joue un match aux États-Unis.
Mais autrement, ce que tu fais,
c'est. Là, t'es dans la position. T'es pas dans une position.
Aujourd'hui, c'est que tu envoies aux États-Unis, Christophe, pour le troisième et dernier match, comme ça tu n'as pas un voyage de 24 heures à faire, tu envoies l'équipe premium pour disputer le dernier match aux États-Unis.
Oui, mais c'est n'importe quoi, parce qu'après il y a un décalage dans le calendrier, puisqu'il faudrait reposer les joueurs 15 jours.
C'est très compliqué.
Moi je veux dire juste une chose. Moi je veux dire que ça part de Fabien Galthié. En fait, si tu veux. Fabien, il respecte l'histoire, il respecte... Vraiment, je connais bien Fabien, c'est pas un problème de respect par rapport à l'histoire.
Bien sûr.
Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il rentre dans un process d'un objectif à moyenne de court terme, c'est-à-dire la Coupe du Monde à 3 ans, et il est complètement focalisé là-dessus. C'est que lui, il n'y a pas de compromis, c'est fini. Il dit, moi maintenant, mes joueurs, je vais les amener dans 3 ans au meilleur de leur forme.
Bien sûr.
Mais pour ça, il va falloir faire des sacrifices.
C'est donc, désormais, la tournée en Nouvelle-Zélande, on s'en moque.
Mais non, mais moi je dis.
Arrêtons les tournées.
Moi, je ne veux pas que les Coupes du Monde.
Je ne peux pas accepter.
Mais l'économie du rugby ne
pourra pas être. Non, mais attendez.
Moi, il y a une phrase qui me fait mal dans l'enrobé de Pierre Thévenet. C'est à la fin, il dit, si ça se trouve, Antoine Dupont ne jouera jamais à l'Eden Park d'Auckland.
Hier soir, quand tu connais l'histoire, les relations
qui existent entre la Nouvelle-Zélande et la France, les matchs de légende, que ce soit en Coupe du Monde ou dans les tests matchs qui ont été créés.
Je suis sûr que lui, il a envie de jouer.
Mais bien sûr, tes joueurs
ont envie d'aller jouer.
J'ai demandé à Philippe, parce que je savais qu'on avait ce débat, je lui ai dit, quel est ton plus grand souvenir en tant que joueur? Il m'a dit, être allé battre la Nouvelle-Zélande sur son terrain. Dans l'île.
Mais ça met, bien sûr.
Mais vous ne mettez, pardon, vous ne mettez le débat, vous élevez le débat au rang de l'émotion uniquement. Non. Mais si.
Non.
Mais si, parce que vous parlez d'histoire.
Au niveau de l'économie aussi.
Mais non, mais au niveau de l'économie. Laissez-moi juste finir. La Fédération française de rugby, depuis des années, essaie de trouver une cohérence avec son calendrier, avec le top 14. On parle de temps où il y a des négociations systématiques. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des joueurs des clubs pour en faire des internationaux, et puis on essaie de vous dédommager financièrement. Ensuite de ça, on n'arrête pas de parler de la protection et la santé physique et mentale des joueurs de rugby. Mais donc il y a un moment, il y a un règlement. Donc il y a un moment, c'est pas un manque de respect. Ils sont en train de respecter le règlement qu'ils ont mis en place.
Le manque de respect, c'est pas qu'ils envoient l'équipe bis.
Mais t'as raison. Là, je suis d'accord.
C'est pas qu'ils envoient l'équipe bis.
Mais là, je suis d'accord.
Le système fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autrement.
Et bien alors, on ne peut pas faire autrement.
Dans ces cas-là, ils ne disent pas à la Fédération néo-zélandaise s'ils veulent jouer au Groenland, on va jouer au Groenland.
Non, mais là aujourd'hui, pour moi, on arrive au bout d'un cycle. C'est-à-dire que.
Au bout d'un système. Au bout d'un système.
Alors qu'est-ce que tu fais?
Attends, supprime les.
Non, c'est qu'il y a un moment, il faut trouver.
Mais
non, il faut trouver un.
À ce moment-là. Mais si tu supprimes les tournées, tu t'en es terminé.
Mais je parle pas des tournées
néo-zélandaises.
Le point central, c'est Stop 14. La problématique, c'est Stop 14 qui finit. Mais aussi tard, on est bien d'accord.
S'il finit un mois avant
Top 14.
Bien sûr.
S'il finit un mois avant, on a résolu tous les problèmes. Donc voilà, le problème, c'est la Fédé et la Ligue.
Deux clubs,
c'est un débat passionnant.
Surtout, tu tapes dans la Coupe d'Europe.
C'est
un débat passionnant, mais si vous parlez tous en même temps, on ne comprend plus rien. Là aussi, on ne comprend plus rien. Juste un petit peu de calme, tranquille. On va accueillir Brice dans quelques instants. Denis, vous voulez tenter de terminer une phrase.
Je veux juste dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Dans la mesure où il n'y a plus de place dans le calendrier, ça veut dire que ton championnat, il finira toujours la même date. Mm-hmm. Ton champion de France, j'entends, le top 14. Donc ça voudra dire que ces joueurs, et ça je comprends la Ligue, absolument, de ne pas envoyer ces joueurs
en
Nouvelle-Zélande. Évidemment que c'est une obligation. Mais le problème, c'est que il faut, maintenant, sachant ça, il faut plus faire de tournée, en vérité, la vérité.
C'est ce que, ben c'est oui, ce que disait c'est Christophe, mais au-delà de ça, à un moment donné, quand tu décides d'envoyer ton équipe bis, eh bien, tu te plies aux exactement conditions et aux voilà exigences ça de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Parce que la Nouvelle-Zélande, on est bien content quand ils viennent en France avec leur grosse équipe et qu'on remplit le Stade de France et qu'on remplit la billetterie.
Ils n'ont pas la même problématique. Florian Grill, quand la prochaine fois que les Néo-Zélandais vont dire, on envoie les Baby Black et qui va faire 20 000 personnes au Stade de France, là, il va faire la gueule, le président de la Fédération.
Je vais essayer, on voit pas les
vrais blacks et tu le dis.
Et surtout, la Nouvelle-Zélande, on peut comprendre qu'ils sont en déficit et qu'ils se disent, mais nous, trois matchs avec l'équipe bis de l'équipe de France, on va pas remplir le stade. Au moins, on va le remplir aux États-Unis.
Non, mais surtout,
au moins, comprendre cette position.
Ils ont aussi une aide financière. Les États-Unis, c'est pas qu'ils remplissent ça, c'est en plus, on leur donne de l'argent. C'est ça qu'il faut savoir. Oui. Donc si tu veux, c'est pour faire rentrer l'argent, évidemment.
Mais oui.
Après, moi, je comprends pas qu'on n'essaye pas de trouver une solution.
Sarah, en plus, ces matchs intermédiaires entre les coupes du monde, ils sont hyper importants.
De jouer
face aux meilleurs joueurs du monde,
chez eux.
Les box ou les blacks chez eux. Eh bien, on rappelle que la Coupe du monde aura lieu en Australie. Donc il faut se mesurer à eux une ou deux fois par an.
Je ne dis pas
disputer les trois matchs avec l'équipe premium, mais au moins disputer un match là-bas avec Dupont et compagnie.
Ok, on a compris vos positions. Brice nous appelle au 32-16, il veut participer au débat. Bonjour Brice.
Oui, bonjour à tous.
Salut Brice.
Bon, dans quel camp tu es, Sarah ou les trois garçons?
Complètement dans le camp de Sarah, et vous êtes tous sourds à ces arguments. Tous, franchement. Denis, je t'ai écouté chez 2020.
Merci Brice.
Franchement, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais en fait, il y a un truc qui est important, c'est qu'en fait, là, à mon avis, c'est Florian Grill au niveau de la forme, il a vraiment pas été bon là dans la communication. Mais par contre, Sarah, t'as complètement raison. Aujourd'hui, on a un top 14, on a un accord avec la Ligue nationale de rugby et la FFR, qui fait que il semblerait qu'on priorise quand même le tournoi destination et la tournée de novembre, mais voilà, pour des raisons de calendrier, ça tout à fait raison.
On n'a jamais dit le contraire.
Quand tu parles en fait aujourd'hui du championnat anglais, mais c'est complètement vrai ce que tu dis, parce qu'effectivement avec deux matchs en moins, en fait ça fait quand même quatre dates en moins, ça fait un mois potentiellement de récupération de plus. Donc les Anglais, en fait, ils peuvent effectivement partir avec leur équipe entre guillemets premium, mais c'est sûr ça. Mais nous, on a une structure du championnat qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de parler de salaire, même si c'est pas le plus important, mais effectivement, on a le championnat du top 14 qui est le meilleur aujourd'hui au monde. On a les meilleurs joueurs du monde, on a les joueurs les mieux payés. Donc en fait, on va aller dire aux clubs de top 14, eh bien, en gros, on va encore ajouter des dates. Donc déjà, vous les avez, c'est la moitié de l'année. Eh ben, on va encore vous enlever trois dates. Enfin, ça a plus de sens, hein, aujourd'hui.
Mais tu trouves ça normal que les Néo-Zélandais, eux, envoient leur équipe premium pour qu'on puisse remplir le Stade de France et que nous, on leur envoie quasiment les juniors. Est-ce que tu trouves qu'il y a un équilibre entre les deux, là?
C'est pas la question. D'accord avec toi, mais il y a juste un souci de calendrier, parce qu'en fait, quand les Blacks
viennent chez nous en novembre, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Le championnat est terminé. Donc en fait, eux, ils sont dans le prolongement du Four Nations. Donc en fait, c'est la fin de leur calendrier. Donc c'est comme ça, ils sont avec leur équipe première. Donc
tu as raison, ils n'ont pas la même problématique.
Ça, mais là-dessus, Brice, on est complètement d'accord.
Organisons une année sur deux les tournées de novembre dans l'hémisphère sud. Comme ça, au moins, on envoie l'équipe première dans l'hémisphère sud.
Et on brasserie à ses nations là-bas chez elle.
Et voilà. Et donc, tu fais une année sur deux en Europe et une année sur deux dans l'hémisphère sud.
Parce qu'au final, l'été, ça va toujours être la même chose. Là, en novembre, on va chez eux, mais bon, on aura toujours notre bonne équipe, mais c'est le problème de cette tournée d'été, où en fait, tous les ans, t'auras jamais ta grosse équipe.
Brice, la tournée d'été, en Argentine, au Japon, s'il y a l'équipe bis, à la rigueur, mais le mythe, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, à un moment donné, en tant qu'amoureux de sport, on a envie que cette équipe de France, et même pour elle, aller se confronter au meilleur, dans la difficulté, un peu moins dans le confort de chez nous, dans notre stade, à Paris.
Brice, toi le premier, tu vas pas regarder ce match avec intérêt comme tu aurais regardé avec Dupont, avec tous les grands joueurs de l'équipe de France.
Fais des nouvelles règles, une année sur trois, tu fais pas de finale de top 14, tu fais pas de poule finale, c'est-à-dire que tu finis à ton classement. Non, mais il y a un moment.
On n'est pas dans le tennis, là, on est dans le rugby, on est un sport sérieux.
Vous voulez changer les règles, changez-les jusqu'au bout les règles dans ces cas-là.
Allez, voilà, on va clore ce débat passionnant sur le 15 de France. Merci beaucoup les GG, merci à Brice d'avoir composé le 32-16. À bientôt sur RMC.
Merci également à Pierre Thévenet,
notre journaliste, d'avoir été avec nous.
Est-ce que je suis resté à 69%?
Tu veux le... Bah c'est toujours pareil, t'es resté voilà, 69% non, le 15 de France ne manque pas de respect à la Nouvelle-Zélande. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de ski. Le grand retour d'Alexis Pinturo, c'est aujourd'hui. On recevra évidemment un ami de la montagne, un ami d'RMC, notre consultant Bastoun, Sébastien Amier. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez à l'occasion des RMC Sport Games avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Julien Beneteau et nous accueillons notre consultant ski, le célèbre Sébastien Amier. Dis Bastoun, salut Seb.
Salut à tous, salut GG.
Salut Bastoun.
Merci
salut.
De nous accueillir quelque part chez toi, même si tu viens pas de l'Alpe de
l'Huez. Ah il est loin de chez lui.
On est toujours ravi de vous accueillir dans les Alpes.
Il est très loin de chez lui, d'accord.
Oui, mais. À vol d'oiseau, pas très loin, mais.
Ouais, comme il a un hélico, il s'en fiche. Il
exactement.
En hélico, il allait son hélico.
Ah, bah, quand on gagne une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, les copains, forcément, on se déplace en hélico. Ah,
hein. Bah, voyons.
Et on a un chauffeur particulier.
Je vous attends après, d'ailleurs, on ira faire un petit tour sur les.
Écoute, avec,
sur les Alpes.
Avec grand plaisir. Restez avec nous dans une dizaine de minutes. Nous parlerons d'Alpine et de son choix et de sa sévérité parfois envers Ocon. Il a beaucoup de choses à nous dire, Christophe Cessieux, de la crise de la soixantaine, notamment au sujet de Flavio Briatore. Alors, ce devait être le grand retour d'Alexis Pinturo hier avec la descente de Beaver Creek, mais le champion français a préféré renoncer, différer son retour quand il sera, je cite, plus compétitif dans cette discipline. Selon la Fédération française de ski, lui qui s'était gravement blessé au genou en janvier dernier, mercredi, Alexis Pinturo a confié au micro d'RMC Sport son appréhension, sa peur en descente. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Ah oui, très clairement, il y avait aussi de la peur parce que c'est les premières fois où je suis à nouveau confronté à des vitesses qui dépassent les 120, 130 km/h avec beaucoup de mouvements de terrain. Cette année, la piste de Beaver Creek, elle est particulièrement exigeante, elle est bien préparée, mais il y a aussi beaucoup de mouvements de terrain artificiels qui ont été créés plus que par le passé. Donc, ce qui rend forcément le retour émotionnellement parlant, plus difficile, plus exigeante. Et ça reste quand même Beaver Creek, l'une des compétitions en descente qui est la plus engagée de l'hiver. C'est pas la plus simple où recommencer ou en tout cas où revenir mettre un dossard et derrière le portillon.
Il a renoncé au dernier moment. Alexis Pinturo peut-il vraiment revenir au top après sa grave blessure? C'est oui ou c'est non, Christophe Cessieux?
Non, j'ai du mal à croire qu'il redevienne le Alexis Pinturo qu'il a été.
Ok, c'est plutôt non. Sarah Pitkowski.
J'aurais tendance à dire plutôt non, et surtout non si son objectif c'est d'aller chercher une médaille en 2026 en descente okay. aux Jeux Olympiques.
J'aurais tendance à dire plutôt non. C'est comme eux.
oui ou non. Merci beaucoup
mais
de
non,
rétablir de l'ordre. C'est non, ok. Julien Beneteau.
S'il reste en vitesse super G et descente, non.
Ok, non, Bastoun.
Je peux dire quelque chose avant oui ou non?
Ah oui,
ouais.
Vas-y.
Voilà, donc je pense que tout dépend où on met la barre pour Alexis Pinturo. Ouais, si on veut qu'il redevienne vainqueur de la Coupe du Monde Général, ou si qu'on veut qu'il fasse un one-shot champion du monde, champion olympique, ou vainqueur
de
Coupe du Monde.
Il remet en question ton débat.
Moi, je dis oui, puisque je pense qu'il reviendra au plus haut, peut-être moins en dominant moins, comme il l'a fait par le passé, mais j'espère que oui.
Alors avant de débattre dans quelques instants, vous allez pouvoir donner vos arguments. Nous allons retrouver notre spécialiste ski, c'est Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut JC, salut à tous.
Mais c'était important de t'avoir ce matin parce que c'est toi qui as recueilli les propos d'Alexis Pinturo. Son grand retour est tout de même prévu pour aujourd'hui.
Oui, avec le dossard 11, il prendra donc le départ du Super G, sa première course depuis presque un an, blessé donc à Wengen en descente, ligament croisé rompu. Et s'il a fait l'impasse sur la descente américaine, c'est assez logique et compréhensible. La Birds of Prey de Beaver Creek, elle est évidemment très exigeante avec d'importants mouvements de terrain et des vitesses donc approchant les 130 km/h. Et c'est évidemment rien de rassurant pour un retour à la compétition.
C'est pas forcément très utile pour moi de mettre la charrue avant les bœufs dans cette discipline-là. Il paraît plus intéressant de faire les choses par étapes et de prendre les départs uniquement si je me sens bien sur cette épreuve et sur ce lieu.
Alors que le Super G, discipline de vitesse aussi, mais de 130 km/h, on passe à 110 environ, avec des tracés un tracé plus tournant, plus technique, et c'est donc moins de risques à prendre pour Alexis. Et d'ailleurs, en 2022, à Beaver Creek, en Super G, le Français avait terminé troisième, mais attention, aujourd'hui, il ne se fixe aucun objectif précis.
C'est sûr que c'est très différent par rapport aux autres années où j'abordais une saison. Le but, c'était d'aller chercher des podiums, d'aller chercher des victoires, être le plus possible aux avant-postes. Là, la situation est complètement différente. J'arrive sur un hiver où je sais que je suis pas à 100%. L'idée, c'est que ce soit une saison un peu de reconstruction. Il est très difficile d'envisager d'être très performant dès le début de saison, en tout cas avec une blessure comme j'ai pu avoir.
Et finalement, ce premier week-end de compétition lui permettra de se jauger, de retrouver surtout une confiance et des sensations avec un genou gauche qui ne le laisse pas encore totalement tranquille. Mais il faut également souligner que remettre un dossard pour Alexis, c'est principalement du plaisir au-delà de toutes ces appréhensions dont il nous a fait part. Et donc, en plus du Super G ce soir, Alexis Pinturo sera aligné dimanche, donc demain, en géant.
L'année de la reconstruction. Pinturo, Alexis Pinturo peut-il vraiment revenir au top? C'est le débat dans les GG. On vous attend au 32-16. Toi, Christophe, tu le connais bien, Alexis Pinturo, t'as des doutes?
Oui, j'ai des doutes parce que c'est pas une blessure anodine, évidemment, les croisés, d'autres ont connu cette blessure, c'est très long pour revenir, il faut un an déjà pour arriver à retrouver un semblant de forme. Je pense pas de toute manière que cette année il sera performant au point d'espérer remporter une épreuve de Coupe du Monde, surtout en descente. Moi je lui conseillerais franchement cette année de laisser tomber la descente, de faire du super G et du géant, de se reconstruire dans ces deux disciplines et ensuite éventuellement la saison prochaine de reprendre la descente. Mais le temps passe aussi pour Alexis parce qu'il y a cette blessure, mais c'est aussi 33 balais, c'est aussi une petite fille, Olympe, qui est née au début de l'année. Et évidemment, quand tu es skieur et que tu as du mal à débrancher le cerveau parce que tu sais que tu as ta petite qui t'attend à la maison, bah, c'est plus compliqué d'être performant. Surtout quand tu as été blessé et que tu as la trouille. Donc, de ce côté-là aussi, il y a aussi des jeunes qui sont au top. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un garçon qui skie dans les mêmes disciplines qu'Alexis Pinturo, qui s'appelle Marco Odermatt, qui est un génie du ski. On n'a jamais vu un tel talent aussi polyvalent depuis des années. Aujourd'hui, il est vraiment au-dessus. Donc, arriver à challenger Odermatt, ça va être très compliqué aussi pour Alexis. Et puis, il faut aussi rappeler que sa saison la plus aboutie, c'est la saison 2021, où il remporte le Gros Globe. Bon, il n'y avait pas Hirscher, il n'y avait pas encore Odermatt. Depuis, il est quand même un peu redescendu dans la hiérarchie. 10e l'année d'après, 8e ou 9e, je crois, encore l'année d'après. Donc, il est plus exactement le même Pinturo qu'il était il y a 4 ans et qui dominait le ski mondial. Donc, après ses blessures, après l'âge, après la naissance de sa petite fille, après la trouille, j'ai du mal à penser qu'il redevienne le grand Pinturo. Mais j'espère franchement me tromper, parce que ce mec est génial.
Moi j'ai une question à Bastoun, surtout parce que lui, il a connu ça, il est allé dans les portillons et des marées comme ça. Est-ce que un jour, t'as eu envie de renoncer? Est-ce que ça a été pris de panique, de la peur de mal faire, la peur du vide?
Je pense qu'on a tous, quand on est athlète de haut niveau, un moment de doute, quoi qu'il arrive. Il y a des jours où on est moins bien physiquement, surtout quand tu reviens de blessure, tu as un paramètre qui est quand même important. Sa blessure est pas anodine, c'est pas qu'un croisé, il y a eu le plateau tibial qui est touché, il y a les ménisques qui ont été touchés, donc ça prend aussi plus de temps. Forcément, il s'était mis dans l'objectif de début de saison dernière de faire de la vitesse, donc de gagner en descente, c'est ce qui lui manquait, puisqu'en Super G, il a déjà gagné. Continuer le géant, délaisser le slalom. Donc c'était vraiment son objectif final de finir sa carrière comme ça. Malheureusement, Wengen est arrivé à laisser des traces. Donc il repart sur un même plan de fin de carrière. Mais aujourd'hui avec des incertitudes qui sont ce facteur, on l'entend bien d'ailleurs dans son discours. Une part de... C'est pas de la peur, c'est aussi une incertitude, son état de forme actuel qui lui permet pas d'être là à 100%, je pense, ce soir.
Oui, mais la piste lui fait peur quand même.
La piste, elle lui fait pas peur, je pense qu'il en parle comme ça parce qu'il est pas prêt physiquement encore pour affronter ça.
Comme Christophe, il devrait abandonner l'idée de la descente.
Moi, je pense aussi, alors c'est pour ça qu'il le fait intelligemment. Là, il a 3 courses où il va être protégé avec le dossard 31, puisqu'il joue avec le règlement de la Fédération Internationale de Ski. Donc c'est pour ça qu'il se donne ce délai aussi, qu'il n'a pas le couteau sous la gorge pour prendre un départ en descente où il sait qu'il va au casse-pipe. On l'entend bien, il le répète pas qu'une fois, il le répète plusieurs fois. Super G, bon, il va moins 20 km/h moins vite. Je suis pas sûr que ça soit moins dangereux en Super G sur cette piste-là ce soir. En tout cas, il est confiant parce qu'il sait qu'il n'arrive pas sans entraînement. Hein. Ça fait 3 mois et demi qu'il skie, qu'il fait des entraînements, il sait où il en est. Donc là, voilà, c'était plutôt aborder cette descente avec des sauts, parce qu'en Super G, il y a un peu moins de sauts aussi, sur cette descente de Bjerke.
Retomber sur les genoux.
Voilà, on a vu qu'il y avait des gros sauts. Hein, hier, ça a été à 50 et quelques mètres sur un des sauts. Donc il y a ce facteur-là aussi qui l'a fait douter un petit peu. Moi, maintenant, je pense qu'Alexis, il a le temps. Hein, sa carrière, il nous l'a montré, il a plu à nous la démontrer. Il faut qu'il prenne ce temps. C'est la première fois qu'il gère une grosse blessure, comme ça. Donc il est dans cette position de moi je me suis blessé en fin d'hiver, c'est la première fois que je me blesse à 52 ans. Je peux vous dire qu'hier matin je devais aller au ski, j'avais les chottes pour aller faire du ski libre. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore allé parce que j'ai encore peur. Et je comprends tous les athlètes par lequel j'ai vécu ça par procuration. Moi, j'ai vécu des blessures que par procuration avec mes potes. Et je me disais, bah, ils rattaquent, bon, c'est des chochottes, ils ont mal, ils ont le genou qui gonfle et ainsi de suite. Et puis, en fait, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette
okay.
dans
tu cette comprends le je schéma comprends d'Alexandre
Et comme il comprends. Le dit, aujourd'hui, c'est une descente, c'est 130 km/h, c'est de l'engagement physique. Et quand t'es pas à 100%, vaut mieux savoir mettre le clignotant que de prendre des risques.
Mais c'est un petit peu comme la Formule 1. À partir du moment où tu as peur, c'est très difficile de prendre un départ.
Oui, parce
tu
commences pas,
un peu paralysé. Julien Benedetto.
Mets ton intégrité physique en jeu, en première ligne, dans ce genre de sport, contrairement à... au nôtre avec Sarah. Pour moi, Alexis Pinturo, il faut qu'il se mette en mode Nadal Djokovic de fin de carrière. C'est-à-dire que, comme dit Bastoun, il gagnera plus jamais le gros globe du général. Et ça doit pas être son objectif. Comme ces mecs-là, être numéro un mondial, c'est pas leur objectif.
Ils visent quelques courses, quoi.
Ils veulent gagner des grands chelems, ils veulent gagner des grands titres. Ouais. Alexis, c'est ça. Aujourd'hui, avec le palmarès qu'il a, etc. Il y a les Jeux Olympiques, il y a des grandes courses de Coupe du Monde à cibler.
Les championnats du monde au mois de février.
Il les fait quand il est prêt et dans ses disciplines de prédilection. Le géant, le super G. Et si en descente, il reprend de la confiance, petit à petit, il revient, pourquoi pas? Mais il doit être dans cet état d'esprit-là, parce que déjà, avec les Odermatt et compagnie, le général, c'est cuit. Et puis qu'il y a 34 ans, t'es papa d'une petite fille et t'as fait ta carrière, un des plus grands palmarès du ski français, si ce n'est avec Jean-Claude Killy, le plus grand.
En termes de victoire en Coupe du Monde, c'est le plus grand.
Le plus grand. Mmh. Et voilà, il doit se donner le temps et cibler ses objectifs et prendre le temps pour être au top.
Okay, et une fois de plus, on revient sur un mode Alexis Pinturo qui était je m'oriente sur une victoire en descente parce que c'est la seule qui lui manque dans son palmarès. Et je pense qu'il prend le temps aussi de laisser ce genou qu'il ne laisse pas tranquille en ce moment. Donc, en plus, de guérir et puis de guérir aussi dans la tête pour peut-être caler 2025, 2026 ou voire 2027.
Ok, pour clore le débat.
Pourquoi je dis non? Parce qu'en fait, je me base sur ses déclarations. C'est-à-dire que fin d'année 2023, quand il dit j'ai tout gagné dans le ski aujourd'hui, si je continue, c'est qu'il faut que je me fixe à un objectif que je n'ai jamais encore touché du bout des skis ou du bout des doigts, c'était la descente. Mais la descente, je me retourne vers toi, Bastoun, ça nécessite quand même une modification musculaire, ça modifie des modes d'entraînement. C'était comme ça qu'il s'était entraîné. Sur la première compétition, en tout cas la deuxième, il se fait les croisés aujourd'hui. Est-ce que c'est raisonnable de se fixer? Alors, qu'il ait encore des objectifs, qu'il ait encore envie d'aller chercher peut-être un podium aux Jeux Olympiques, mais est-ce que c'est raisonnable d'aller chercher la descente, sachant que cette discipline, de tout ce que je lis, c'est il faut de l'expérience, il faut de la confiance. Et ça, malheureusement.
Il faut être une tête brûlée.
Comment tu peux l'avoir à 34 ans? C'est-à-dire qu'à 25 ans, tu prends des risques. À 34, tu prends plus les messes, les mêmes du tout. Donc, en fait, est-ce qu'effectivement, cet objectif d'aller chercher même une victoire en descente, est-ce qu'elle est raisonnable avec ce qui lui est arrivé?
Raisonnable et réaliste.
Et raisonnable et réaliste.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est réaliste. Et je pense que aujourd'hui, il lui manque, et c'est raisonnable, il lui manque une victoire en descente, il lui manque le titre olympique, mais je pense qu'Alexis aujourd'hui, c'est surtout une machine de guerre. Vous m'avez déjà entendu le dire, il y a des très 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 grands champions. Il y a des très grands champions et il y a des champions. Lui, il fait partie de cette gamme-là, et je pense que dans cette gamme-là, ces athlètes-là sont capables, à un moment ou à un autre, de faire des choses qui sont improbables. Et je crois même l'identifier dans cette situation-là où aujourd'hui, il est capable, mais il y aura un peu de temps. Donc, on lui laisse un peu de temps. Ce sera pas demain, ce sera pas après-demain, ce sera peut-être au mois de la seule descente qu'il gagnera peut-être, ce sera celle des championnats du monde. Et puis, on verra au mois de.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais s'il gagne en géant avant, c'est bien. Et puis, ça le remettra en route. Ça lui redonnera la confiance et surtout qu'il récupère déjà à 100% pour faire du ski à 100%.
Merci beaucoup, Bastoun, d'être venu dans le studio RMC pour les RMC Sport Game ici en direct de l'Alpe d'Huez. Évidemment, nous suivrons aussi avec Léna Marjac. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le Super G, la première course de la saison d'Alexis Pinturo, c'est à 18h30 aujourd'hui. On en parlera demain dans les grandes gueules du sport. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec la crise de la soixantaine de Christophe Cessieux autour d'Alpine et de Flavio Briatore. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, toujours en direct de l'Alpe d'Huez à l'occasion des RMC Sport Games. Vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre en direct. N'hésitez pas, si vous voulez admirer les GG, vous allez sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. À partir de 11h, on ouvre le débat sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous serons avec les athlètes qui sont avec nous ici à la montagne. Ils viendront nous donner leur avis, athlètes médaillés lors des derniers JO et lors des derniers Jeux Paralympiques de Paris 2024. Mais tout de suite, c'est l'instant. Christophe Cessieux.
RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul sur tous les, de tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras le bol.
Ah. La crise de la soixantaine, signé Christophe Cessieux. Tu vas criser sur quoi
là, on va parler de Flavio Briatore. Alors, tout d'abord, une petite introduction. Je ne sais pas si, comme le fantasme, si, comme tu le fantasmes, j'y sais, les néo-sexagénaires, ou plutôt futurs sexagénaires, seraient sujets à une crise. Franchement, moi, quand je me regarde le matin dans la glace, je ne vois pas la crise, l'œil vif, la truffe humide. Je ne me suis jamais senti aussi bien, bien mieux en tout cas que certains quadras ou trentenaires qui ne sont toujours pas réveillés, qui ont fait la fête jusqu'à 6h du mat et qui vont avoir du mal à émerger avant 18h ce soir. Parenthèse refermée, d'autant que d'autres, à bientôt 75 ans, ne connaissent pas la crise, loin de là même. C'est le cas donc d'un certain Flavio Briatore. Vous vous souvenez certainement de ce bel-âtre italien qui, dans les années 90, se pavanait sur tous les circuits de F1 au bras des plus belles femmes de la planète. Ce businessman avisé qui ne ratait jamais une bonne affaire et avait eu quand même le pif de recruter un jeune pilote allemand nommé Michael Schumacher, avec lequel il s'était hissé au sommet de la Formule 1. C'est vrai qu'on ne peut dénier à Briatore le sens du business. Le problème, c'est que pour parvenir à ses fins, le playboy italien n'a pas hésité non plus à user de méthodes pour le moins limite. C'est ainsi qu'en 2008, alors qu'il dirigeait l'écurie Renault, Flavio le flamboyant avait eu l'idée lumineuse de demander à l'un de ses pilotes, Nelson Piquet Jr., de réaliser un magnifique tête-à-queue, plus exactement en pleine ligne droite du Grand Prix de Singapour, alors que son leader, Fernando Alonso, se trouvait au stand. L'objectif de la manœuvre, faire sortir la voiture de sécurité et permettre ainsi au pilote espagnol de revenir en piste et de prendre la première place, alors qu'il n'était que 15e au moment de son stop. Pas bête comme idée, mais pas vraiment autorisée. Flavio, qui ce soir-là, au micro des journalistes, évoquera la justice divine pour expliquer ce miracle, dont Piquet rendra compte de manière plus prosaïque un an plus tard, révélant que c'est Flavio qui lui avait ordonné cette manœuvre. Le fameux Crashgate, qui vaudra à Briatore un bannissement à vie de la Formule 1 avant que la justice ne décide finalement quelques temps plus tard de lever cette sanction qu'elle a jugée trop sévère. En échange, Briatore conclura un marché avec la FIA et acceptera de quitter le sport automobile jusqu'en 2012. Eh bien, il va faire même mieux, Flavio, puisqu'on ne verra plus sa crinière argentée sur les circuits jusqu'en juin 2024 et l'annonce par Alpine de son retour en tant que conseiller exécutif de l'écurie française. Sa mission, il l'avouera lui-même, c'est de nettoyer la maison, de lui redonner le goût de la gagne. Et pour ce faire, l'Italien va influencer le PDG de Renault, le poussant à abandonner l'idée de fabriquer soi-même son moteur, jugé pas assez performant, pour se tourner vers le moteur Mercedes, dont Alpine deviendra client en 2026, ce qui poussera ainsi au chômage les ouvriers et ingénieurs de l'usine Renault de Viry-Châtillon. Autre idée de Flavio, se débarrasser au plus vite du pilote français Esteban Ocon, dont le contrat avec Alpine n'avait pas été renouvelé en juin dernier, mais qui pensait, au vu de ses états de service, qu'il allait tout de même pouvoir terminer dignement sa mission dans l'écurie. On rappelle qu'outre sa victoire en 2021, Ocon avait décroché le mois dernier au Brésil une magnifique et presque miraculeuse deuxième place qui, associée à la troisième de son coéquipier Pierre Gasly, avait permis à Alpine de gagner plusieurs rangs au classement des constructeurs et donc de sérieuses primes, dizaines de millions pour l'écurie française la saison prochaine. Mais de cela, Flavio n'en a cure. L'Italien a donc convoqué Ocon en début de semaine dans son bureau, lui a expliqué tranquillement que s'il voulait être autorisé à participer la semaine prochaine aux essais de fin de saison avec sa nouvelle écurie As, il devrait avant cela accepter de ne pas disputer le dernier Grand Prix de la saison prévu ce dimanche à Abu Dhabi. Et Ocon n'a eu d'autre choix que d'accepter cette proposition qu'on ne peut pas refuser. Il quitte donc Alpine, une main devant, une main derrière, remplacé au volant de l'Alpine par le jeune pilote australien Jack Doohan, qui a le mérite, lui, de faire partie de la structure
de management de Flavio Briatore en personne. Voilà donc à quoi ressemblent les méthodes de Flavio. Personnellement, je trouve que cela s'apparente plus à une sorte de chantage, plus qu'à l'intervention de la justice divine, qui était pourtant si chère à Briatore.
Merci beaucoup, Christophe Cessieu. La crise de la soixantaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe et notamment la gestion du cas Ocon, mais plus largement la gestion alpine cette saison? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou il nous fait une petite crise de la soixantaine, là, Christophe?
J'étais plutôt d'accord avec lui, mais j'ai lu un papier hier qui. Voilà.
Qui remet en doute?
Qui me remet un peu en doute. Je pense qu'il n'est pas si perdant que ça, Ocon.
Ok, voilà. Très bien.
Ouais, je suis d'accord avec lui. Ouais.
T'es d'accord?
Je suis d'accord avec ça. On a lu la même chose.
Ok, bah voilà. Ah oui, bah il suffit d'un article pour
balayer. Non,
juste
on ouvre.
Pour se faire un avis, il faut avoir les deux sons de cloche.
Ah, exactement. Oui,
le patron de l'écurie, juste Oliver Hawke,
c'est voilà. Exactement. Ça. C'est de lui dont on parle.
Il a déclaré qu'il n'était pas là pour être gentil avec Ocon et que de toute façon, il avait une autre écurie et que lui, il préférait s'occuper d'Alpine. Donc, il n'y avait que Alpine qui comptait. C'est là-dessus que vous voulez aller, Sarah?
Oui, absolument. Parce que quand on lit, il n'y a pas de raison d'être gentil avec Ocon, tu dis, bon, alors, les mecs, là, ils sont sans foi ni loi. Mais quand tu rentre dans l'article, tu comprends en fait que y a un petit deal, c'est-à-dire que sur un dernier Grand Prix, oui, ça fait monter dans le baquet un jeune Australien qui va débuter en F1, mais pour Ocon, c'est aussi d'aller essayer la Haas avant le début du championnat, donc je suis pas sûr qu'il soit si perdant que ça.
Il pouvait pas essayer justement.
Il aurait très bien pu le faire en disputant le dernier Grand Prix et ensuite la semaine prochaine aller faire les essais.
Exactement.
Et c'est ce que Briatore lui a dit. Non, si tu veux faire les essais,
tu abandonnes le baquet.
Il y a un manque de classe terrible.
On est d'accord, mais ce qu'on dit, c'est qu'Ocon n'est pas si perdant que ça, dans le sens où à Abu Dhabi, donc demain, il va faire les essais dans la Haas. Mais oui, mais il gagne un peu de temps parce que le but, c'est effectivement qu'il soit performant avec Haas dès le début de la saison prochaine.
Alpine est à la bagarre avec Haas.
Justement, tu prends un pilote expérimenté qui t'a déjà fait gagner ta voiture, qui a terminé deuxième il y a quelques semaines, plutôt qu'un. Oui, un débutant
c'est inexplicable.
Pour moi, c'est inexplicable.
Mais attendez,
Julien.
Non,
c'est inexplicable. Sauf que je suis pas dans cette théorie-là, mais Hawks le laisse entrevoir. Il y a une telle différence d'argent entre la 6e ou 7e au constructeur. Mm-hmm. Il remettait un petit peu en doute l'intégrité de Ocon en se disant.
Dire qu'Ocon aurait levé le pied.
Ah.
C'est ça, il entre les lignes, c'est ce qu'il veut dire.
Parce que
Ocon, il a intérêt à aller dans une écurie qui a plus d'argent.
Oui.
Donc ça a passé devant Alpine, et donc il disait, il y avait peut-être ce risque-là aussi, sur le dernier Grand Prix de la saison, qu'on n'a pas voulu prendre.
Ça peut s'entendre.
Ah, merci.
Au Brésil, il savait déjà qu'il allait chez Haas, il a terminé deuxième. Ça il a donc rapporté plein de points à l'écurie Alpine.
Donc il est classe, Ocon.
Ok, très bien, 10h57. Évidemment, on suivra le Grand Prix, le dernier Grand Prix de la saison d'Abu Dhabi. Elle se sera demain à suivre sur RMC. On se retrouve dans quelques instants avec les athlètes olympiques, paralympiques qui sont avec nous ici à l'Alpe d'Huez pour un débat évidemment qui nous préoccupe depuis plusieurs mois. L'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Est-ce qu'il faut arrêter avec cette notion d'héritage? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.